Radio Shalom, le journal vous est présenté par Bernard Aboif.
Bonjour à tous, risque très sérieux d'un embrasement dans le Golfe avec les Américains qui poussent la pression et les Iraniens qui mènent des manœuvres à tir réel. L'Union européenne dans ce contexte a sanctionné des responsables iraniens après la répression des manifestations. Donc décidément le conflit menace de prendre une grande ampleur, peut-être internationale. L'Union européenne a annoncé de nouvelles sanctions visant plusieurs hauts responsables iraniens qui sont impliqués dans la répression, non seulement les responsables des gardiens de la révolution, mais aussi le procureur général iranien, par exemple, ou le chef de la police. Et dans le même temps, l'Union européenne, au plus haut niveau, au niveau de ses responsables de la diplomatie, au niveau de ses ministres des Affaires étrangères, a déclaré l'organisation des gardiens de la révolution organisation terroriste. Brooklyn, avec un nouvel incident contre les Lubavitch dans le quartier de Crown Heights, une voiture est rentrée dans une maison et il rentrait dans le siège central des Lubavitch, le 770, de manière totalement délibérée. On le voit sur les vidéos, une voiture a percuté à plusieurs reprises le siège du 770. Et puis Rima Hassan est invitée à participer à un sommet à Doha. Elle est invitée par Al Jazeera et elle participera avec des responsables des régimes les plus meurtriers du Proche-Orient, l'Iran, le Qatar. C'est un forum qui doit réunir plusieurs figures centrales de régimes et d'organisations comme le Hamas par exemple, à l'invitation de Al Jazeera. On part tout de suite pour Jérusalem, on le retrouve, notre correspondant permanent Dror Even Sapir. Bonsoir Dror.
Bonsoir.
L'Union européenne a classé organisation terroriste les gardiens de la révolution et bien sûr Israël se félicite, soulignant par exemple que c'est pas seulement symbolique, il y a des implications importantes au niveau financier pour les responsables des gardiens de la révolution qui ont participé à la répression à Téhéran.
Oui, Israël s'est félicité, a salué cette décision de l'Union européenne et des ministres des Affaires étrangères des pays membres de l'Union. Gideon Saar, le ministre israélien des Affaires étrangères, a parlé d'une décision importante et historique. Il a rappelé qu'Israël tentait depuis déjà de nombreuses années et avec plus d'intensité encore au cours de ces dernières semaines de convaincre les Européens qu'il fallait effectivement qualifier les gardiens de la révolution d'organisation terroriste. C'est désormais chose faite et Gideon Saar a rappelé que les gardiens de la révolution étaient la principale organisation qui, à travers la région, à travers le Moyen-Orient et même au-delà, assurer la promotion du terrorisme et déstabiliser notamment ou tenter de déstabiliser la plupart des pays du Moyen-Orient. Il a également parlé d'un message important adressé aux Iraniens qui luttent souvent en péril de leur vie, on l'a vu, pour leur liberté contre ce régime et contre son bras armé, à savoir les gardiens de la révolution. Il faut dire également que dans le contexte du renforcement du déploiement militaire américain dans les eaux de la mer Rouge face à l'Iran, avec une force de frappe impressionnante, cette armada dont a parlé Donald Trump, Israël se prépare à une éventuelle frappe américaine, à d'éventuelles frappes américaines contre l'Iran et à une très probable riposte iranienne qui pourrait toucher le territoire israélien. D'ailleurs, les dirigeants iraniens ont fait allusion à une riposte qui serait large et qui serait globale et qui donc pourrait concerner Israël. La défense antiaérienne israélienne est prête à toutes les éventualités et on sait que les deux armées, les armées américaines et israéliennes, sont étroitement coordonnées et que toute décision d'éventuelle frappe américaine sur l'Iran sera communiquée suffisamment en avance, en amont, aux autorités israéliennes civiles et militaires.
Raven Sapir, je rappelle que vous êtes l'un des correspondants permanents de Radio Shalom à Jérusalem et je vous remercie. Bonsoir à vous.
Bonsoir.
L'Iran qui a dénoncé évidemment ces mesures et qui, dans le même temps, se prépare à une confrontation militaire. L'Iran a averti les navires en mer qu'elle mènera la semaine prochaine des manœuvres militaires comprenant des tirs à balles réelles dans le détroit d'Ormuz, un passage maritime stratégique par lequel transite environ 20% du pétrole mondial. L'Iran a annoncé avoir livré un lot de 1000 drones aux différentes branches de son armée. Selon une agence de presse qui est semi-officielle, la Taznim, le chef d'état-major de l'armée iranienne, Amir Khatami, a déclaré que ses capacités renforçaient l'avantage stratégique de l'Iran et sa capacité à répondre rapidement à une attaque militaire. Donc vous voyez qu'on en parle beaucoup avec des informations qui sont parues cette fois-ci dans la presse britannique, affirmant que Donald Trump se préparait à une confrontation, à une attaque contre les Iraniens suite à l'échec de négociations secrètes qui étaient menées par son envoyé Witkoff sous la direction de plusieurs pays dont Oman, le Qatar et probablement la Turquie. Le lendemain du retour en Israël de l'otage Ran Gvili et un officier participé à une cérémonie, il est encore à Gaza. Participe à une cérémonie avec les soldats qui ont réussi à retrouver Ran Gvili et qui ont fait un effort considérable donc pour un soldat mort. Et il dit, faire ça pour un soldat mort, il n'y a pas 10%, il n'y a pas un peuple dans le monde qui ferait 10% de ce que vous avez fait. On m'a demandé pourquoi Tzal doit faire ça. J'ai dit, mais qui fait ça à part les Khayal et Tzal, à part les soldats de Tzal? Je sais que c'est pas facile. Je sais que ça doit faire très mal, mais c'est des choses qu'on n'oubliera jamais. Le dentiste, par exemple, qui reste 24 heures sur 24 à regarder les dents de cadavres et des centaines de corps, et être là-bas dans cette chose-là, c'est une shlichut, c'est quelque chose que personne ne ferait. Et je sais que ça fait très mal. Moi, je pense que dans le monde, il n'y a personne qui ferait 10% de ce que Israël a fait pour ramener tout le monde à la maison. Donc voilà cet officier qui raconte ce qui a été fait dans ce cimetière de Gaza. Un habitant de Brooklyn a été condamné à 15 ans de prison pour sa participation à un projet d'assassinat commandité par l'Iran contre la dissidente iranienne Mahsi Anilejad. Vous connaissez cette opposante, c'est celle qui a une fleur jaune. Vous savez, dans les cheveux, on la voit beaucoup. C'est une opposante qui est également une journaliste et un tueur a été filmé à son domicile pour une mission de l'Iran pour venir l'assassinat. Et puis, je vous le disais en titre, à Doha, un forum organisé par Al Jazeera réunira l'Iran, le Hamas et Rima Hassan, et député européen. Le forum Al Jazeera accueillera du 7 au 9 février à Doha une série d'intervenants qui soulèvent de lourdes interrogations sur la nature réelle de l'événement et sur le rôle du Qatar d'ailleurs. Officiellement, c'est une conférence qui est consacrée à la cause palestinienne et à l'équilibre régional dans un monde multipolaire émergent. Et donc, je vous dis, responsable du Hamas, du Hezbollah, Rima Hassan. Malgré le fait que le Hamas n'ait pas restitué le corps du soldat israélien Ran Gvili, Israël a décidé de transférer 15 dépouilles de Gazaouis vers Gaza. La décision s'inscrit dans le cadre de l'accord sur les otages qui prévoit le transfert de 15 corps pour chaque otage décédé. Or, je le répète, ce n'est pas le Hamas qui a rendu le corps du dernier otage. Les Israéliens sont allés le chercher eux-mêmes, mais ils ont fait ce geste qui normalement est prévu par les accords. La violence dans le secteur arabe-israélien qui se poursuit avec un homme qui a été blessé, qui se trouve dans un état grave après une attaque par balle dans la ville de Nazareth. Et puis, on va dire un mot sur les cérémonies du jour international de commémoration pour la Shoah qui a eu lieu hier avec une vidéo qui tourne beaucoup sur Internet à Babi Yar. Babi Yar, c'est un endroit où 30 000 juifs ont été massacrés en deux jours en Ukraine. Écoutez, parce que c'est juste magnifique. C'est la chanson Eli, Eli par des soldats ukrainiens sur place à Babi Yar. C'est toujours difficile de passer, mais il paraît que dans le monde juif, on le fait régulièrement, comme ça, de la tristesse la plus immense à la gaieté, carrément. Et c'est un fou rire général au Parlement du Danemark lorsque la Première ministre, Mette Frederiksen, j'espère le prononcer correctement son nom, parle du fait que Donald Trump veut obtenir le prix Nobel de la paix. Et elle dit ça. Et alors vous savez évidemment qu'ils sont sous les menaces de Donald Trump pour l'histoire du Groenland. Et elle ne peut pas s'empêcher, elle part en fou rire et tout le Parlement suit avec elle. Elle n'arrive pas à parler, elle veut faire ce discours, mais d'avoir prononcé le mot Donald Trump qui veut être prix Nobel de la paix, elle ne peut pas, quoi. Elle n'est pas arrivée. Vous allez dire qu'on met beaucoup de chansons, mais vraiment, bon, celle-là, on la mérite, j'ai envie de dire. C'est Imad Amadi qui est présent à l'enterrement de Ran Gvili. Ran Gvili, donc, vous le savez, c'est le dernier otage israélien qui a été ramené de Gaza. Imad Amadi, lui-même, star israélienne, qu'on voit dans Foda, qui est un grand chanteur israélien, mais qui lui-même a été blessé à Gaza, hospitalisé, et qui est de l'unité qui a retrouvé le corps de Gan, de Ran. J'ai du mal à prononcer carrément, parce que c'est incroyable. Il est sur place, dans le bataillon, et déjà, c'est Imad Amadi, mais en plus de ça, il participe aux recherches pour retrouver Ran Gvili, et donc il chante hier aux obsèques de Ran Gvili, et il dit Nigmar, Nigmar, c'est fini, et il chante devant toutes les autorités du pays, président, premier ministre, mais surtout le père, la mère, le frère, la sœur de Ran Gvili. אני עוד עומד שם, מסתתר צעד גדול אליי, להיות זה ששומע ובין ביס לביס, עלתה בי מחשבה
לעזאזל כמה גיבורים יש במדינה. נגמר.
נגמר, נגמר. Encore un peu, Mariam, si on peut. Voilà, donc Imad Hamadi qui dit Nigmar, Nigmar. À la famille, ça y est, il est enterré, c'est le dernier otage. Nigmar. Et il est légitime, parce que lui y est allé aussi. Retour en France avec Raphaël Huzon qui nous a reçus dans les studios. Bonsoir Raphaël.
Et bonsoir Bernard.
La ville de Besançon a décidé de recouvrir dans les prochains jours une fresque murale qui représente le conflit israélo-palestinien après un signalement du CRIF. L'œuvre jugée antisémite par plusieurs observateurs avait été peinte en octobre dernier sur le mur d'un complexe sportif. Ça fait froid dans le dos.
Et oui, hein, tout à fait, Bernard. Hein, cette fresque qui montre notamment un chandelier à sept branches, je décris pour les auditeurs, hein, juxtaposé à une tête de mort recouverte d'un kéfier palestinien. Et aux abords hein, de cette menorah,
vous
avez, tout à fait, à Besançon, vous avez une grenade, vous avez des balles, des pastèques aussi, symbole de la Palestine, et une date aussi, hein, 1948-2025, symbole donc de mort de l'État d'Israël. Pour le CRIF, cette association donc visuelle aussi avec un corbeau, symbole de la mort, peut être interprétée donc comme assimilant les Juifs à des crimes de masse. C'est comme ça que voit le CRIF, le président de la délégation régionale, Laurent Hoffnung, donc estime que cette image revient à désigner le peuple juif comme génocidaire, une lecture qu'il juge profondément choquante. Alerté par ces signalements, la municipalité a annoncé que la fresque serait recouverte cette semaine. A noter que la maire écologiste Anne Vigneault n'a pas explicitement évoqué le caractère antisémite de l'œuvre, mais la mairie explique sa décision par le fait que le mur concerné n'est pas un espace d'expression libre, contrairement à d'autres sites prévus à cet effet dans la ville. Sur le plan judiciaire, le dossier a été transmis au parquet de Besançon. Le procureur de la République a indiqué que l'affaire serait suivie par le magistrat référent en matière de lutte contre le racisme, l'antisémitisme et les discriminations.
Merci Raphaël. On part pour Kronetz dans un instant, tout de suite après la pause. Vous savez que le siège des Lubavitch, le 770, a été percuté volontairement à deux reprises par un homme. On en parle dans une minute avec un habitant du quartier.